RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et tout de suite, nous commençons avec Stéphane Clerget et Christophe qui nous racontaient sa première masturbation.
Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, je voulais juste apporter un petit témoignage rapport à cette fameuse masturbation et éjaculation. Je voudrais aussi enlever une idée reçue, à savoir que c'est tout aussi bon sans éjaculation, c'est-à-dire avant d'être un homme. Et justement, en fait, j'avais une masturbation quotidienne depuis ma plus tendre enfance. Et le jour de mes 13 ans, il y a une fameuse éjaculation qui est sortie et ça m'a un petit peu perturbé. Ce jour-là, je me suis juste dit, mince, c'est pas meilleur, c'est juste sale, il faut se laver après, quoi, c'est tout.
En fait.
Mais c'est
drôle,
tout aussi bon avant.
Oui. C'est drôle, oui. Vous étiez quand même assez en avance tous les garçons ne se masturbent pas quotidiennement avant 13 ans.
Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir vécu dans une pièce avec mes parents depuis très jeune. J'ai été pris par mes parents à l'âge de 7 ans dans ma voisine.
C'est-à-dire que vous êtes...
Dans ma voisine, donc disons que j'étais en train de faire l'acte et je faisais pas semblant. Voilà.
Ah oui. Donc très précoce quand même. Hein.
Par rapport à l'accès à la pornographie très jeune, moi j'y ai eu accès très tôt, parce que grâce à mon père qui planquait pas très bien ses vidéos. À une époque, dans les années 70, où il n'y avait pas spécialement de magnétoscope, ils avaient même carrément un petit magnétophone, vous savez, les bandes là qu'on met l'une derrière l'autre. Là. Et en fait, j'y ai eu accès très très tôt, et je voulais rassurer tous ceux qui avaient peur que les enfants tombent là-dessus. Ça n'empêche pas que je suis pas une bête de sexe. Je suis très tendre avec les femmes. Je suis pas perturbé par rapport à ça. Enfin, je pense pas.
On ne devient pas pervers pour ça. C'est ça ce que
voilà,
vous voulez dire.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense d'être très tendre avec les femmes.
Mais Christophe, je pense qu'on mélange toujours deux choses. Dans votre cas, il est fort possible que le fait d'avoir vu très très jeune des films pornographiques, ça vous a fait vous masturber très très jeune et peut-être jouer au docteur très très jeune et de manière plus efficace que la majeure partie des garçons. Bon, ça c'est le sexe, mais être doux et respecter les femmes, c'est l'amour. Et quand on est dans un milieu familial qui va bien et quand on a des beaux modèles de ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le respect de l'autre, ensuite soi-même on respecte l'autre et on est capable d'aimer. Donc on fait un peu trop souvent, je crois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Il faut que les gens se sentent. En fait, chacun évolue en fonction de sa capacité personnelle, de l'éducation qu'on a pu avoir dans le milieu dans lequel on était, et le but du jeu essentiel surtout, c'est de ne pas rentrer dans une case déjà préprogrammée.
Voilà, et puis on est oui, voilà, c'est ça, c'est l'éducation, je pense, avant tout, comme vous disiez. Mais voilà, c'est pas parce qu'on tombe très tôt sur des films porno qu'on devient un performeur qui veut à tout prix tout essayer. Voilà, ça empêche pas d'aimer faire l'amour plus tard, d'être tendre, d'être câlin, d'être tout ça, quoi. Voilà.
Bon, et visiblement, vous faites une grande consommation de Kleenex.
Voilà.
Sinon, c'était la douche, quoi.
Depuis mes 13 ans.
Et oui. Merci de votre beau témoignage, Christophe.
Merci.
Au revoir.
Natacha Chetkouti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez sorti ce livre, Se dire lesbienne, aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Vous êtes sociologue. Et c'est vrai que c'est un ouvrage très, très précis, très, très complet sur les lesbiennes d'aujourd'hui. Et il y a finalement assez peu de recherches. On a l'impression quand même de connaître à peu près tout sur les gays, mais les lesbiennes, et vous le dites bien dans l'ouvrage, elles préfèrent finalement rester un peu secrètes.
Ah, je ne sais pas si c'est les lesbiennes qui préfèrent rester secrètes ou plutôt
la société qui les oblige.
Voilà, c'est exactement.
Vous avez raison.
Tout à fait. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup. En fait, en France, c'est quand même aussi une spécificité française. En sociologie, en tout cas, très peu de recherches ont été faites. Alors les gays, c'est vrai, sur la communauté gay, beaucoup de recherches du fait, entre autres, de la question de l'épidémie SIDA et donc des financements de recherches qui ont permis la réalisation d'enquêtes. En France, non seulement il y a une pénurie de financement sur les recherches sur les lesbiennes, mais en plus, effectivement, ça cause aussi des difficultés après d'insertion dans le milieu professionnel. Donc aussi, la rareté des recherches explique aussi pour des raisons institutionnelles. Donc voilà, donc cette recherche, vous voulez que j'en dise un peu plus peut-être?
Je vais vous poser plein de questions, bon, mais voilà. si vous voulez parler et me dire ce que vous avez envie de dire, allez-y. Mais le livre est vraiment, enfin, je veux dire, c'est un livre très complet. Je tiens à vous féliciter parce que.
Je vous remercie beaucoup.
Moi, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde assez peu. Il y a une chose qui est très intéressante que vous dites dans le livre, c'est que finalement, une femme n'aime pas dire qu'elle est lesbienne. Elle dit, je vis avec une femme. C'est fou ça, comme si c'était presque une tare de se dire lesbienne.
Alors effectivement, ce qu'on peut constater, parce que la recherche là qui a été publiée chez Payot, c'est une recherche que j'ai menée entre, je le situe au niveau des dates aussi, parce que même par rapport à tous les débats qu'il y a eu sur le mariage cette année, c'est important de voir. Donc j'ai mené cette enquête de 2003 à 2007, et donc là c'est le résultat de cette enquête. Et par ailleurs, depuis, j'ai travaillé sur un corpus de plus jeunes lesbiennes de 17 à 35 ans et de femmes bisexuelles. Donc on pourra comme ça un peu en discuter aussi. Et ce qui est frappant effectivement de constater, c'est que malgré tous les discours aujourd'hui sur la légalité des droits, sur une certaine forme de visibilité des homosexualités, au fond, dans le parcours des jeunes lesbiennes, il y a encore une difficulté à se nommer parce qu'il y a un manque de références culturelles, cinématographiques, médiatiques. Il y a un manque et ça reste toujours.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu très peu de films à part Gazon maudit.
Et le film qui fait débat en ce moment de Kechiche, la vie d'Adèle, que je trouve un film intéressant là-dessus, c'est qu'il montre d'ailleurs très bien comment, eh bien, à un moment donné, par exemple, l'injonction à se dire dans le lycée, voilà, les camarades de classe se rendent compte que peut-être vous n'êtes pas conforme à l'hétérosexualité, eh bien, se dire lesbienne, c'est une chose encore difficile parce que c'est déroger à la norme des autres. Et puis, par ailleurs, ça renvoie aussi, et ça on le voit bien quand on tape, hein, sur Internet, lesbienne. Si vous tapez lesbienne, vous trouvez je sais plus combien d'entrées en fait qui correspondent au cinéma pornographique dans lesquels lesbiennes se retrouvent pas vraiment, bien souvent. Et alors que gay, par exemple, ça renvoie à une figure beaucoup plus valorisante. Ce sont soit les associations de voilà qui regroupent des communautés gays, soit des bars, soit des messages à campagne de prévention. Mais en tout cas, on est bien dans un registre positif et qui ne renvoie pas à quelque chose qui soit de la sexualité très instrumentale. Soit à quelque chose qui renvoie aussi à l'ordre de l'insulte, encore aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre qu'au fond, il y a des femmes qui sont, dès le départ, conscientes de leur homosexualité, mais finalement, beaucoup vont rentrer dans une sorte de norme hétérosexuelle, et c'est seulement ensuite qu'elles vont, entre guillemets, hein, bien sûr, assumer leur lesbianisme.
Alors, oui, il est vrai que ce que j'ai pu observer, qu'il y a trois parcours au fond chez les lesbiennes, un parcours que j'ai nommé exclusif, c'est-à-dire ce sont les parcours de lesbiennes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des hommes, ce sont les parcours les plus minoritaires, les parcours que j'ai qualifiés de simultanés, c'est-à-dire c'est en début de parcours vous percevez un désir pour une femme, mais voilà, il faut vérifier si c'est bien ça, et pour bien vérifier, certaines vont coucher avec des hommes.
Oui.
Voilà, ce qui est quand même là aussi, on voit bien quand même que là c'est bien l'étrangeté de la position lesbienne, parce que rares sont les femmes ou hommes hétérosexuels qui vont aller coucher avec des personnes de même sexe
pour être sûr d'être hétéro.
Exactement. Et les parcours que donc progressifs, qui sont les parcours les plus majoritaires. Et alors qui sont plus importants chez les lesbiennes que chez les gays. Là, je viens de terminer de travailler avec un collègue où on a comparé les trajectoires gays et lesbiennes. Et en fait, on voit bien que cette contrainte à l'hétérosexualité baisse beaucoup plus fort pour les lesbiennes, notamment liée à une sexualité qui est encore, même s'il y a quand même, on n'est plus dans les années 70, mais qui est quand même, qui renvoie toujours à une norme de la sexualité reproductive aussi, et qui, devenir une femme, c'est être avec un homme aussi. Donc déroger à la règle, c'est beaucoup plus difficile pour des jeunes lesbiennes. Donc elles se trouvent dans des parcours où elles vont avoir épisodiquement des rapports avec des hommes ou se définir comme bisexuelles, même si elles n'ont que des rapports avec des femmes.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement comme chez les gays qui sont très revendicateurs de leur statut, de leurs conditions. Et donc chacune fait un peu comme elle peut. Il y avait Lula Perrin qui était qui a été un grand modèle pour les lesbiennes, mais depuis, il y a très peu de personnes qui sont des porte-drapeaux pour les lesbiennes.
Alors c'est vrai qu'il y a moins de lieux commerciaux que pour les hommes gays, ça c'est sûr. Et là on retrouve la question des inégalités hommes-femmes dans la société en général. C'est que la question du capital économique est moins forte pour les lesbiennes que pour les hommes. Donc il y a moins de lieux commerciaux, ça c'est un fait. Au niveau associatif, il existe les mouvements de toute façon associatifs sont beaucoup moins forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 90. C'est vrai aussi. Et dans ceux qui existent, les lesbiennes sont plus faiblement représentées. En général, elles sont plus représentées par des gays ou par des
mouvements de transgenre.
Elles sont plus invisibilisées, de fait. Ça, c'est tout à fait vrai.
Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, Natacha Chetkouti, que finalement, c'est difficile d'être une femme, encore aujourd'hui au XXIe siècle, et d'autant plus si on n'a pas un homme dans sa vie?
Ben oui, certaines parlent de double peine pour parler
oui,
là.
C'est ça, oui.
Des lesbiennes, et effectivement, elles subissent à la fois les inégalités hommes-femmes dans une société qui est encore quand même majoritairement définie dans cette, ne serait-ce qu'au travail, que ne serait-ce que... Bon. Et l'autre double peine, c'est une invisibilité persistante qui évidemment marque les trajectoires. Alors là où elles deviennent plus visibles, mais bon, ça aussi c'est ambivalent, c'est sur les questions d'homoparentalité.
Visiblement, les couples, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne durent pas si longtemps que ça, hein.
Alors, est-ce qu'il n'y aura pas longtemps? Oui, enfin, en tout cas, à partir des témoignages que j'ai recueillis, c'est vrai qu'il y avait en gros une moyenne de durée des couples. Ça dépend de l'âge aussi, mais disons entre 35 et 50 ans, à partir du moment où il y a une affirmation plus grande du lesbianisme, parce que justement, il y a quand même ça demande un certain temps avant de s'affirmer,
oui.
Bien sûr. Et donc, construire un couple, eh bien, ça se fait pas en début de parcours. Donc, on peut dire que l'affirmation lesbienne, qui, si elle démarre aux alentours d'une trentaine d'années, effectivement, peut s'accompagner d'une vie de couple, en général exclusive, où la norme de la fidélité sexuelle et affective est quand même la règle la plus majoritaire.
Contrairement aux gays, hein, d'ailleurs.
Absolument. Mmh. Parce qu'il n'y a pas, effectivement, un couple qui peut se conjuguer avec une sexualité de loisir. Ça ne fait pas du tout partie des trajectoires lesbiennes.
De leur éthique, oui.
Voilà. Et on peut dire aussi que, là aussi, elles sont comme les femmes. C'est-à-dire, pour les femmes, il y a une socialisation de la sexualité qui, en général, articule sentiment et sexualité plus communément, et en tout cas alors pour les hommes aussi, mais d'une manière différente. Il y a une capacité à vivre une sexualité sans sentiment.
Et donc elles restent en couple finalement pas si longtemps qu'on pourrait l'imaginer. 5 ans, 10 ans maximum, c'est un peu ce que vous dites.
Voilà, il y a l'idée que le désir n'est pas forcément quelque chose qui dure toute la vie. Et quand même, dans la construction de ces couples, ce qui définit le couple, c'est la relation au désir. Donc, s'il n'y a plus de désir, ou si le désir est différé, ou si ça pose des questions, effectivement, sur la vie du couple.
Et alors, Natacha Chetkouti, et je vous félicite, vous avez aussi abordé la sexualité des lesbiennes. Et en fait, on découvre que, évidemment, la pénétration n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Et alors, ce qui est surtout de très intéressant, c'est que la sodomie est pratiquement exclue des pratiques lesbiennes. Donc,
oui.
C'est bien une pratique, encore une fois, très hétérosexuelle ou... gays.
Oui, alors tous les gays ne pratiquent pas non plus la sodomie d'ailleurs.
Attention. Ouais.
mais c'est vrai que la pénétration anale, mais quand on regarde un peu les enquêtes sur les sexualités hommes-femmes, on voit que c'est la pénétration anale reste encore un acte qui renvoie soit à des idées d'impureté, soit quelque chose en tout cas qui n'est pas forcément, qui s'insère pas forcément dans, on pourrait dire, le scénario sexuel le plus banal. Ce qu'il y a de fort, en tout cas, j'ai trouvé, c'était que la sexualité, effectivement, n'est pas forcément définie, en tout cas par la pénétration coïtale, de fait. Donc, elle pose des questions sur qu'est-ce qu'on entend par territoire du désir. Et où la pénétration digitale, peut-être, est un acte, mais il n'est pas systématique et qu'il y a donc une espèce de multiple des formes sexuelles.
Voilà, mais en revanche, le plaisir, l'orgasme est revendiqué dans leur histoire, quoi. Je veux dire, ce sont pas des couples qui vivent en toute amitié.
Il y a vraiment la
jouissance fait partie du couple.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on pourrait imaginer qu'au fond, les lesbiennes sont des femmes, elles sont moins portées par le sexe et puis peut-être qu'elles se contentent du sentiment. Non, pas du tout.
Ah non. Et je pense même que ce qui définit le couple, c'est cette question de sexualité. bien chez les lesbiennes, les ex ont une place importante, voire même qui peut faire concurrence à la partenaire du moment. Et ce qui différencie bien l'ex...
Les ex homosexuels, hein, bien sûr.
Oui, oui, tout à fait. Absolument, oui. Et ce qui différencie bien l'ex de la partenaire du moment, c'est bien ce vécu de la sexualité.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Bien, je vais vous parler des sex friends. En fait, un sex friend, hein, c'est quelqu'un avec qui on a des relations sexuelles, mais avec qui on ne s'engage pas, avec qui on ne vit pas d'ailleurs, hein. Alors, je pense que ça correspond pas à tout le monde. C'est réservé à certaines personnes, mais c'est pas fait pour ceux qui ont envie de vivre une vraie relation amoureuse. Alors, quels sont les avantages? Alors, souvent, ça peut permettre de reprendre confiance en soi, surtout après une rupture, quand on vient de rompre, surtout si ça a été une histoire importante ou on est en vrai grand chagrin d'amour. Il vaut mieux envisager d'avoir des sex friends. Ça permet, au fond, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir quelqu'un avec qui on peut sortir sans que on se sente justement à nouveau dans un engagement réel. Ça permet aussi de ne pas avoir le sentiment d'être infidèle, hein, puisque justement on peut avoir un seul sex friends, mais on peut en avoir plusieurs. On n'a pas de compte à se rendre en quelque sorte. Ça permet aussi de prendre de l'expérience, de conjuguer sexe et amitié. Mais oui, ça se conjugue. Pas de contraintes, mais attention tout de même, parce que on peut sans même forcément tout de suite s'en rendre compte, se mettre à souffrir parce qu'on va s'attacher beaucoup plus que prévu. Et si c'est pas réciproque, là on peut vraiment être assez malheureux, parce qu'au fond le contrat de départ n'était pas de s'engager, évidemment. Alors je crois que le conseil que je peux vous donner, si vous sentez que vous êtes en train de tomber amoureux, ne vous voilez pas la face, hein. Dites-le, osez le dire à votre sex friends, et puis voyez ce qu'il vous répond. Peut-être que lui aussi est en train de tomber amoureux, et à ce moment-là on passe d'une relation sex friend à une vraie relation. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense qu'il vaut mieux couper dans l'œuf, comme on dit, parce qu'une fois qu'on est très amoureux, ça peut vraiment terriblement faire souffrir. Et nous allons aller à Paris. Nous allons aller à Paris avec vous, Camille Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
C'est un guide, vous l'avez appelé Paris couche-toi là. C'est un guide qui donne envie de découvrir les endroits les plus érotiques, les plus chauds, les plus coquins de la capitale. J'imagine que ça a dû vous prendre un certain temps, parce qu'il y a beaucoup d'endroits quand même, hein, que vous avez été visiter.
Ouais, il y a plus d'une soixantaine d'endroits. Principalement donc à Paris, des gens aussi que je suis allée rencontrer qui m'ont parlé des différentes formes de sexualité qu'on pouvait vivre aujourd'hui dans la capitale. Donc j'ai pris mon petit carnet et je me suis baladée dans Paris avec la question de où est l'érotisme aujourd'hui à Paris, quel est notre rapport à la sexualité dans cette capitale. Voilà, pas forcément des lieux dédiés au sexe, il y a aussi des endroits qui sont juste charmants, où on peut aller en couple, etc. Ou des endroits où les femmes aussi peuvent prendre une forme de féminité et apprendre des choses sur leur propre érotisme.
Oui, par exemple, il y a un endroit où on peut apprendre à la pole dance. Enfin, c'est un guide assez varié qui en effet, hein, c'est pas du tout un guide érotique, c'est vraiment... la sensualité de Paris. Est-ce que Paris reste encore cette ville la plus symbole des amoureux, la plus symbole de l'amour et de la sensualité?
Ce qui est assez drôle, c'est que ça a toujours ce capital symbolique très fort. Les étrangers qui viennent à Paris, c'est vraiment Paris, capitale de l'amour, du sexe, etc. Ça a cette image-là. Mais ce qui est assez drôle, c'est que les Parisiens et les Français n'en profite pas vraiment de ça. Mais ce qui est assez normal, en fait, quand on vit dans une ville, c'est un peu comme quand on vit avec une personne au quotidien. On remarque
pas,
plus,
mais...
exactement. Quand on voit la personne brosser les dents tous les matins et enfiler son pyjama, on se dit pas que c'est la personne la plus désirable du monde. Donc c'est une question de regard. C'est pareil avec Paris. Quand on fait métro boulot dodo, on n'est pas là, genre, mon Dieu, je vis dans une capitale absolument érotique. C'est une question de regard. Si tout d'un coup, on voit l'autre d'une autre façon, et qu'on essaye de découvrir chez lui ce qui nous a plu dès le départ. Avec la ville, c'est pareil. Il suffit à un moment d'échanger le regard et dire, ça, c'est moustillant. Ça, c'est drôle. Ça me fait penser, ça me fait penser au sexe. Ça me fait penser à l'érotisme. Donc c'est essayer de voir cette ville.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce guide, Camille Emmanuel?
Alors,
je sais que vous intéressez beaucoup à la culture érotique.
Oui, mais... en fait, j'écris donc pour des sites web depuis 4-5 ans sur la culture érotique, plus sur des livres, des films, etc., qui parlent d'érotisme, de pornographie, de sexualité. Et en fait, c'est les gens autour de moi qui, du coup, le fait que j'écrive là-dessus, venaient me voir en disant, bon alors, c'est quoi le lieu à Paris, toi qui t'y connais? Je dis, alors non, je ne connais pas. Bah si, je m'y connais un petit peu. Mais du coup...
Donc voilà. À force, vous vous êtes dit, il faut que je me renseigne, il faut quand même que je puisse donner des bonnes, une vraie réponse crédible.
Exactement.
Et c'est comme ça que c'est venu, cette envie de découvrir Paris.
Ouais. Et puis voilà, c'est aussi, j'avais donc cette réaction-là, ou une deuxième réaction de personnes qui me disaient, non, mais Paris, c'est plus érotique, faut aller à Berlin aujourd'hui, etc. Et donc, moi, j'ai voulu un peu aller contre deux idées qui est que l'herbe est plus verte ailleurs, donc l'herbe n'est pas plus érotique ailleurs, et que c'était mieux avant. Je crois pas que c'était mieux avant. Et j'ai voulu montrer aujourd'hui ce qui se passait.
Parce que, en fait, Camille Emmanuel, certains disent que depuis la fermeture des maisons closes, Paris, c'est plus la ville la plus coquine du monde, quoi. C'est, alors que, au fond, les maisons closes, c'est fermé depuis 46 plutôt, pardon.
Oui, exactement. En fait, Paris a eu cette réputation de capitale des plaisirs, avec la prostitution. Mmh. Et aussi les cabarets de nus. Voilà, pareil. Exactement. Il y avait énormément de cabarets où le comble de l'érotisme, c'était de voir une femme seins nus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le comble de l'érotisme de voir une femme seins nus. On peut voir ailleurs, partout.
Sur les plages.
Oui. Donc, la sexualité, l'érotisme est plus complexe, plus protéiforme. Et puis surtout, les femmes ne sont plus seulement des objets sexuels sur ce territoire de jeu qu'est Paris, mais elles sont actrices de cet érotisme, dans le sens où que ça soit les feuilleuses New Burlesque, celle qui tient un magasin de lingerie, voilà, olé olé, mais vraiment de qualité, etc. C'est des femmes qui prennent la parole et qui elles-mêmes, elles ne sont plus objets sexuels, elles deviennent sujets sexuels. Donc c'est pour ça que je dis souvent Paris s'est féminisé.
C'est pas par hasard que ce soit une femme justement qui nous présente ce Paris couche-toi là aux éditions Parigramme. Alors le lieu qui reste quand même le lieu culte de l'érotisme, c'est évidemment le musée de l'érotisme qui se trouve dans boulevard de Clichy, hein, c'est bien ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça reste je dirais que c'est presque un lieu incontournable si on veut connaître l'érotisme à Paris. Hein.
Ce qui est étonnant, c'est que pareil, les Parisiens n'y vont pas beaucoup, même les Français n'y vont pas beaucoup, c'est beaucoup de touristes étrangers. C'est un musée en fait dont j'admire les expositions temporaires, expositions permanentes. Mmh. Il y a un petit côté peut-être un peu poussiéreux, ça mériterait un petit coup de.
Oui, c'est voilà. Pas faux. Oui.
Mais par contre, il y a un vrai choix et il y a une vraie sélection sur les expositions temporaires qui sont super. En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Kinkiness, qui est vraiment contemporaine, qui est sexy, qui est intéressante et qui est vraiment moderne. Donc, et c'est le seul musée à Paris.
Mais c'est un vrai musée érotique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment y emmener sa partenaire, même si elle est un peu coincée, sans que ce soit c'est pas vulgaire. Enfin, il y a des
non.
objets qui sont un peu fun. Il y a des objets qui peuvent un peu choquer, mais il y a rien de vraiment vulgaire.
Hein. Non, il y a rien de vulgaire. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, ce que je raconte dans le livre, il y a une anecdote, c'est un des boss du musée qui m'a raconté qu'ils avaient dû enlever un lavabo dans les toilettes du musée de l'érotisme parce qu'il y avait des couples qui étaient émoustillés et qui voilà utilisaient ce lavabo, ils ont dû le dévisser parce que ça devenait dangereux au bout d'un moment.
Oui, il allait finir par tomber.
Comme quoi, voilà, c'est un lieu qui donne envie d'eux apparemment.
Oui, exactement. Quels sont pour vous les deux trois lieux que vous conseilleriez à nos auditeurs s'ils viennent à Paris pour s'émoustiller un peu?
Bon, faut acheter le livre. Non, je dirais que alors il y a pas, encore une fois, il n'y a pas un lieu, c'est ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend si on est célibataire, en couple, etc. Mais il y a plusieurs choses. D'une part, il y a quand même un grand choix dans tout ce qui est boutique de sextoy, de cosmétiques érotiques, etc. Il y en a aussi partout en France, mais à Paris, il y a quand même un large choix. Moi, il y a une boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle Dollhouse, qui est dans le Marais, qui est une des premières à s'être installée. Mm-hmm. C'est tenu par deux femmes et elles ont une approche... que j'apprécie parce qu'elles sont pas, elles poussent pas la consommation à tout prix. Elles sont pas là, genre, faut acheter le dernier sextoy, avec 5 têtes vibratoires, etc. Elles sont dans une approche plus de sexologie et d'écoute des autres. Et elles apportent un regard décomplexé sur tout ça. On peut y aller, on sera pas jugé, et c'est pas non plus un supermarché, c'est une petite boutique. Donc c'est dans le Marais, et moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez parlé du musée de l'érotisme. À Paris, il y a toute une scène new burlesque, moi, que je trouve intéressante parce que on n'est plus dans le strip, qui est un petit peu années 90, le pole dance, mm-hmm, ça peut être positif, mais.
Alors, c'est quoi le new burlesque?
Le new burlesque, en fait, c'est de l'effeuillage. Donc c'est des, ça vient des États-Unis et en fait c'est des femmes de toute morphologie qui s'effeuillent sur scène, qui se retrouvent avec des cache-tétons et une culotte, elles se déshabillent pas complètement et en fait qui font une performance où elles prennent des rôles féminins, elles vont jouer la femme fatale, elles vont jouer la pin-up, elles vont jouer la femme enfant, peu importe, elles vont se moquer un petit peu de ces clichés féminins et donc c'est des shows qui sont à la fois sexy et drôles et qui s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Je sais qu'en tant que femme, moi j'ai vu dans le livre, je raconte des shows de pure strip. En tant que fille, j'étais là genre ouais super, les belles fesses, mais on s'en fiche un peu.
Oui, bien sûr, ça vous a pas excité plus que ça.
Alors j'étais, ça m'a donné envie de faire du sport.
Il y a des choses qui m'ont surprise quand même dans ce guide. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait une piscine à Paris où on peut nager nu.
Oui. Bah, j'ai découvert aussi.
C'est intéressant, hein, c'est dans le 12e, je crois, hein, c'est ça, oui.
Bah, il y a des horaires naturistes, mais depuis des années, en fait, ça fait 20 ans,
ouais,
il se trouve
quoi,
que.
On découvre des choses.
Mais oui, encore aujourd'hui. Et alors, c'est assez marrant parce que au début, c'était naturiste pour tout le monde, et puis finalement, le public est devenu de plus en plus gay. Et c'est un lieu non pas de d'activité sexuelle mais en tout cas de rencontres, de discussions voilà pour cette population. Et en fait ce qui est assez marrant c'est que du coup moi j'ai nagé au milieu de 100 garçons tout nus quoi.
Ah, ça donc, ça vous a excité j'imagine.
Oui mais ils me regardaient pas. Enfin voilà, j'avais l'impression d'être vraiment personne ça aurait été pareil. Et non, c'était assez marrant parce que j'ai arrêté de faire la brasse coulée au bout d'un moment parce que voilà, je voulais pas forcément arriver au bout de la ligne et avoir 100 garçons tout nus en face de moi.
Oui, c'était drôle. Donc c'est un lieu finalement de d'homosexuels, quoi.
Oui.
Oui. Mais enfin, ça a dû être une expérience assez.
Ah bah j'ai bien rigolé dans les douches et tout, parce qu'on met quand même un bonnet de bain en fait. On est naturiste mais pas des cheveux. Donc en fait c'est voilà, c'est un endroit où j'ai beaucoup ri et j'ai rencontré des gens très sympas.
Et puis il y a ce fameux cinéma X, le dernier cinéma pornographique, le fameux Beverly. C'est toujours un certain Maurice hein, qui tient ce cinéma.
C'est intéressant en fait ce cinéma parce que ça parle d'un Paris, ça parle de consommation érotique et pornographique qui est en train de disparaître. Le lieu va fermer, c'est sûr, prochainement. Il y a moins en moins de monde parce qu'aujourd'hui, le porno est rentré dans les foyers avec Internet, avant avec VHS et Canal. Et du coup, c'est un petit peu un militant du porno à la papa. Parce que et d'ailleurs c'est les gens qui viennent dans ce cinéma sont plutôt très âgés, plutôt des hommes et très âgés. Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est un passionné, un militant de ces vieux films et puis il apporte un service quelque part à une certaine population parisienne qui va pas sur les tubes porno, qui va pas sur YouPorn, qui voilà ils ont appris à regarder du porno au cinéma et ils continuent à le faire. Donc quand ça va disparaître, que vont faire ces vieux monsieur? Je me pose la question.
Ils feront peut-être une salle privée et ils regarderont des films entre eux.
Enfin, ouais,
en tout cas, c'est vrai que ça reste. C'est un monument. Hein,
ouais,
au
tout
sens,
à fait. C'est une belle salle. Il a plein d'affiches, il a plein de vieilles choses. Donc c'est une sorte de lieu assez. Je trouve qu'il fait partie du patrimoine pornographique et érotique français. Et c'est un patrimoine, je pense, qu'il faut préserver parce que c'est assez riche.
La question, évidemment, j'imagine que beaucoup d'auditeurs se posent. Et évidemment, on va en parler. Alors, les clubs libertins à Paris, est-ce qu'il y en a plus que jamais? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a qui s'ouvrent, il y en a qui ferment.
Exactement.
C'est une sorte de d'aller-retour sans fin.
Hein. Ouais, tout à fait. Il y en a régulièrement qui s'ouvrent, mais c'est pas évident à tenir un club libertin. Il y a pas mal de couples libertins qui ouvrent des clubs libertins, mais ça veut pas dire savoir tenir un business. C'est pas parce qu'on est alcoolique qu'on va savoir tenir un bar. Bah là, c'est pareil. Donc, voilà. Il y en a qui voilà. Il y a des historiques, évidemment, les chandelles, etc., qui sont là depuis des années.
Les chandelles sont ouvertes à nouveau, parce que je crois qu'elles étaient
fermées. Oui, ils avaient fermé à un moment donné, mais ils ont réouvert. Les clubs libertins, je les ai pas tous faits, parce que quelque part, quand on en a fait un, deux, trois, on a un peu tous fait, c'est fait de la même façon. À chaque fois, il y a le bar, la piste de danse et ce qu'ils appellent les
concanas. J'en déduis que vous n'êtes pas une grande libertine, alors?
Non, personnellement, je suis pas une grande libertine, même si je suis intéressée par le libertinage.
Bien
je trouve que c'est une forme assez, c'est intéressant de vivre sa sexualité. Mais voilà, peut-être que moi, ce que j'ai regretté dans les clubs libertins, c'est que peut-être quelque part un manque de liberté, justement, parce que c'est très codifié, il y a un dress code très classique, les femmes doivent forcément venir en jupe et en talons, les garçons en tenue de ville. Or, bon, voilà, aujourd'hui, un mec peut être très élégant en jean, et ben, il rentrera pas. Donc, il y a des codes comme ça qui sont stricts.
C'est vrai qu'à ce point-là, ça date d'un ancien temps.
C'est des codes d'élégance et de public que je trouve un petit peu vieillot. Et puis, mais après, ce qui est intéressant avec, moi, ce que j'ai aimé ce que j'ai trouvé drôle dans les clubs libertins, c'est que c'est quand même incongru comme endroit. On va être au bar et on va discuter avec des gens, genre, oui, j'ai acheté cette dernière voiture, ou, ouais, j'ai du mal à mettre mes enfants à la crèche en ce moment, etc. Et 5 minutes après, on va se retrouver dans le coin câlin et faire des galipettes. Donc, il y a peu, enfin, dans la vie, il y a peu de situations comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Après,
ce que disent d'ailleurs beaucoup de femmes, elles disent, c'est les seuls endroits aujourd'hui où on peut vraiment s'habiller sexy sans risquer d'avoir une main aux fesses qu'on n'a pas envie d'avoir, c'est dans un club libertin.
Ah, complètement. On peut aller sur la piste de danse en mini-jupe, limite laisser un air. Il va pas y avoir de remarques inconvenantes. Il va pas y avoir d'approche. Il y a beaucoup de respect. C'est assez codifié. Il y a beaucoup de respect. Mais ce qui est intéressant aussi avec les clubs libertins, moi, j'ai trouvé, c'est discuter avec des gens qui avaient une réflexion sur leur sexualité. Ils se posaient des questions. Ils ont une réponse qui n'est pas forcément la mienne, mais au moins, ils se posaient des questions. Et vous le savez, il y a plein de gens qui... Voilà,
bien sûr. Mais alors, c'est quoi leur réponse? Si vous devez donner une réponse comme ça, qu'est-ce que vous en avez retenu?
Avec les clubs libertins à Paris, je pense que ça dépend vraiment de comment on le vit. Avec quelle approche on a dans son couple pour y aller. Ça peut être aussi bien une boîte à fantasmes, mais vraiment, on y va, même si on pratique pas grand chose, on va revenir, on va être émoustillé et on va passer une nuit super avec son partenaire. Mais ça peut être aussi l'enfer sur terre, parce qu'on va voir des choses qu'on veut pas voir, parce qu'il va y avoir de la jalousie ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut y aller avec prudence. C'est des lieux qui sont quand même assez ouverts. Moi, j'ai découvert que voilà, c'était pas des ondes cachées, etc. C'est assez simple d'y rentrer quand on correspond au code vestimentaire. Mais voilà, il faut choisir le bon club et puis aussi en discuter pas mal, je pense, avant quand on y va avec la personne qu'on aime.
Oui, bien sûr. C'est préférable d'être d'accord pour y aller et choisir ensemble l'endroit, parce qu'on peut se retrouver dans des clubs plus ou moins chauds aussi, hein, plus ou moins torrides.
Oui, mais ça se rajeunit, la population, en fait. C'est ça que j'ai remarqué aussi.
Absolument. Les jeunes couples, maintenant, vont très vite en club libertin, ce qui n'était absolument pas le cas il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Mais vous êtes très jeune aussi, Camille Emmanuel. Alors, le quartier, l'arrondissement le plus chaud, ça reste Pigalle?
Il y a deux quartiers, en fait, qui se distinguent à Paris, à Pigalle et le Marais.
Le Marais, c'est un peu plus spécialisé quand même, non?
Bah, pas tant que ça. Enfin oui, effectivement, d'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur le Marais. Il y a tout un chapitre sur les lieux gays et lesbiens. Alors les lieux lesbiens, j'en parle un petit peu. Les lieux gays, en fait, j'ai missionné un pote pour écrire à ma place les endroits où je pouvais pas rentrer. Un endroit comme le dépôt, une femme ne rentre pas.
Un petit peu déguisé, vous auriez peut-être pu rentrer, non?
En drag king avec une moustache, ouais, je sais pas, ce serait pas passé, je crois. Surtout si ça essayait de se mettre torse nu, là, ça aurait un peu, je me serais grillée. Mais j'ai missionné un ami journaliste pour dire bon, ok, là, t'as 5 lieux à faire, mais il était content. Et ensuite, la nuit lesbienne aussi. C'est vrai que le Marais est un petit peu spécialisé, mais il y a quand même des choses, pour tout le monde. Et Pigalle, ce qu'on appelle le sud Pigalle, en effet, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Moi, je suis pas parisienne d'origine, mais quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée à Pigalle, j'ai trouvé ça merveilleux. Pas forcément le boulevard, hein, qui enchaîne kebab et sex shop, mais l'ambiance, on sent l'histoire en plus dans ce lieu, l'histoire du Paris érotique. Et donc j'ai passé pas mal de
donc ça reste temps là-bas. Ça reste Pigalle, le lieu le plus chaud de Paris, quoi.
Oui, en tout cas, celui qui rassemble le plus d'endroits où il y a des clins d'œil, en effet, à l'érotisme, que ce soit des bars, des clubs, des soirées, etc., ça se passe quand même pas mal là-bas.
Et puis vous parlez aussi de la fameuse nuit démoniaque, qui reste aussi un événement. C'est toute une histoire, Démonia.
Ouais, bah il y a la boutique Démonia dont je parle, et puis la soirée Démonia une fois par an.
Dans le 11e, hein, je crois.
C'est dans le 11e, dans le quartier Oberkampf. et qui est plutôt bien parce qu'en plus quand on va là-bas, on est vraiment conseillé. C'est très bon enfant. Enfin voilà, les gens qui accueillent là-bas donnent.
Je précise hein, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Démonia, c'est tendance SM. Hein, bien sûr.
Oui, tendance BDSM. Et la nuit Démonia, c'est vraiment le rassemblement annuel où de BDSM, de fétiches, de latex, voilà, de domina, de soumis, de soumises, etc. Et c'est une grande fête assez interlope, assez particulière. Il y a peut-être trop de monde. Enfin, il y a vraiment un mélange. Puis il y a des curieux qui viennent juste comme ça pour voir. Il y a des gens qui sont vraiment fait un effort de look. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet de découvrir tout cet univers-là, l'univers du BDSM, par un autre biais que par 50 nuances de Grey.
Oui, je vois que vous partagez le même avis sur cet oui. ouvrage que vous avez peut-être lu jusqu'au bout. Vous avez peut-être eu la chance d'arriver à le lire jusqu'au bout.
Tous les soirs, en fait, je me forçais à lire 20 pages.
Ouais.
Et vous avez réussi. C'était mes devoirs de vacances.
Vous avez réussi à aller jusqu'au bout.
Ouais, les 3 tomes.
Les 3 tomes.
Ouais, ouais.
Vous êtes courageuse.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec Laurent qui nous envoie ce mail. Je vous écoute et je suis assez inquiet puisque ma femme est enceinte de 3 mois. C'est notre premier enfant et je me pose la question. Est-ce que justement dès la grossesse, il faut faire quelque chose pour que notre sexualité ne change pas ensuite? Merci de me répondre. Alors, on va déjà répondre à Laurent que de toute façon, tout change dans la vie. Et la sexualité peut-être plus encore que d'autres choses, non ?
Bah oui, la vie est mouvement et bien entendu la sexualité est en mouvement. C'est certain. Et je crois que c'est une idée simple, c'est une idée qui n'est pas forcément toujours acceptée par tout le monde, pas toujours comprise également.
Oui, absolument. Alors il nous a pas donné son âge, Laurent, ni l'âge de sa femme. Alors moi je pense pas que le fait de faire quelque chose pendant la grossesse va forcément. Bien sûr que s'il y a pas du tout de sexualité pendant la grossesse, ça peut être un handicap supplémentaire, mais il y a des couples qui ont eu une très très bonne sexualité pendant la grossesse, et puis quand l'enfant arrive, ça va plus, donc c'est pas si simple que ça non plus.
Oui, tout comme on peut avoir le contraire, c'est-à-dire un couple qui continue à avoir une sexualité pendant la grossesse, et dès que l'enfant est là réellement, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc tous les cas de figure se rencontrent, mais il me semble qu'il y a vraiment quelque chose où il faut arriver à retrouver cet impact du désir qui a tendance à se diluer dès qu'on est parent, parce que l'enfant mobilise tellement d'attention, tellement de regard et tellement de libido aussi que là naturellement on se laisse aller aussi, et que c'est très agréable de se laisser aller dans la parentalité, mais il faut pouvoir revenir à cette dimension un peu je dirais un petit peu sauvage de la sexualité et que la parentalité défait.
Bien sûr, et c'est pour ça que parfois c'est bien aussi de se retrouver tous les deux et laisser les enfants à garder peut-être pendant une semaine de temps en temps.
RMC, Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Christophe, lui aussi, avait pas mal de choses à nous dire sur son tout premier baiser. Nous étions avec Stéphane Clergé, on écoute. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous avez 43 ans, vous vous souvenez de votre premier baiser ?
Oui, tout à fait, Brigitte. Bonjour à tous les deux. À Stéphane.
Bonjour Christophe.
Oui, alors mon premier baiser, en fait, il est un peu particulier parce que il est très tardif, en fait, mon premier baiser.
Oui.
J'ai eu une petite copine dans le bac à sable, mais en fait, pendant des années, on disait toujours que c'était ma petite copine, mais en fait, on ne faisait rien du tout. Donc je me rappelle, de tout temps, on m'a toujours dit que j'étais avec cette petite. Mais voilà, il ne s'est jamais rien passé. En fait, mon premier vrai baiser, parce que je pensais qu'au foot, étant gamin, etc., c'était à 15 ans. Enfin, j'avais pas tout à fait 15 ans, j'avais presque 15 ans. Et en fait, il a été assez particulier, parce qu'en fait, c'est mon premier baiser a fait suivre juste dans la foulée le premier... c'est-à-dire ma première relation sexuelle avec une femme.
C'est la même c'est la même.
Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que je faisais un peu plus vieux que mon âge, et je suis sorti pour la deuxième fois en discothèque, bon, une petite discothèque de campagne. Hein. Et en fait, j'ai vu une femme qui était évidemment beaucoup plus vieille que moi, qui avait 21 ans. Moi, j'en avais.
Oui, une vieille, quoi.
Oui, une vieille. À l'époque, c'était
une cougarde.
Et en fait, je l'ai invitée à danser. J'étais très surpris parce qu'elle m'a dit oui, déjà. Et puis, j'ai à la fin de la chanson, c'était un slow évidemment, à la fin de la chanson, j'ai tenté un baiser, et elle a caissé, donc je t'ai embrassé. Et en fait, tout s'est enchaîné très très vite, donc j'avais tous mes copains qui étaient là, qui étaient surpris évidemment, parce qu'ils avaient le même âge que moi. Donc, et en fait, elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire un tour dehors, et c'était en plein hiver, je me souviens. Donc, elle avait une voiture, puisqu'elle était majeure, et donc, on est allé faire un tour. Et là, donc, elle m'a fait une fellation, juste alors que je venais. C'est la première fois que j'embrassais une femme, quoi.
Et ah oui, ça, vous avez été en accélération rapide, hein.
Ah oui, bon, alors évidemment, c'était. Bon, pour être honnête, j'étais très, très stressé. Parce que ça arrivait, tout s'enchaînait un peu trop rapidement.
Mais quand elle vous emmène dans sa voiture, vous vous doutiez que c'était pour plus
Oui, j'imaginais, parce qu'elle m'avait dit son âge. Moi, je lui avais dit que j'avais 18 ans.
Ah oui.
Ce qui était évidemment faux. Mais voilà, et puis on a fini chez mes parents, carrément. Donc, c'est. Voilà. Et donc, elle a pris beaucoup de temps parce que c'est vrai que j'ai pas forcément tout de suite réussi à avoir une érection.
Après l'éjaculation, vous voulez dire?
Non, ça c'est plutôt. Bon, c'était. Enfin, je me souviens plus si c'était très long, mais en tout cas, ça. Donc, elle a pris son temps et on a fait l'amour. Donc, voilà. Donc, en fait, ma première fois est quand même une sacrée première fois. J'ai été long à la détente, on dira, mais par contre, c'est une révélation. Bon, évidemment, le lendemain matin, on a oublié de se réveiller, et mes parents, il y avait une fête, un repas, il y avait 15 ou 16 personnes. Évidemment, quand on est parti par le garage, mais ils m'ont vu partir avec la dame en voiture, il y a eu un choc. J'ai eu quelques remarques.
Bah oui, 15 ans, quand même, c'est normal. Vos parents, ils ont été un peu surpris.
À la fois, le premier baiser, vous n'êtes pas si long à la détente, parce que d'après les études maintenant, est-ce qu'elles se trompent pas, le premier baiser profond arriverait en moyenne à 14 ans. Donc c'est beaucoup plus tardif qu'on l'imagine. Moi, j'aurais dit 12 ans, et en fait, d'après certaines études, ça serait plutôt 14. La moyenne à garçon-fille, tout confondu. Hein. Donc vous n'auriez pas si long à la détente que ça.
D'accord. Bon, voilà.
Alors, première relation sexuelle, ça resterait 17, donc vous serez même précoce.
Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Donc, bon, après, évidemment, ça s'est un peu gâté, parce que quand elle a appris que j'avais que 15 ans, ça s'est moins bien passé.
Mais oui, c'est normal. D'abord, vous lui aviez menti, les femmes n'aiment pas qu'on leur mente.
Oui. Ah, du tout, non, du tout.
C'est vrai.
J'ai su ce qui s'était passé. En fait, elle venait de rompre avec quelqu'un où elle était restée pendant plus de 2 ans. Et en fait, il a frappé, enfin, il était. C'était quelqu'un d'assez pervers et donc en fait elle avait besoin de douceur, donc elle savait que j'étais jeune, bon 18 ans à penser, mais donc elle avait besoin de douceur, elle avait besoin de
douce mais entreprenante quand même, hein.
Oui, elle voulait être entreprenante, elle voulait pas justement que ce soit à l'inverse de son ancien ami qui était vraiment voilà. L'un dans l'autre.
Vous avez quand même.
Oui, dans l'autre, comme vous dites.
Oui, et vous avez bien profité de la situation, c'est bien.
Oui.
Mais en même temps, c'était une belle première expérience, c'est toujours ça qui compte.
Oui, oui. Bah, c'est le souvenir qui compte surtout. Donc le souvenir a l'air beau, donc.
Tout va bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Sandrine, bonjour.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Sandrine.
Écoutez-moi, mon premier baiser, c'est avec un Stéphane qui est mon mari.
Attendez, c'était où?
Pardon?
C'était où?
C'était il y a fort longtemps, mais c'était pas vous.
Ah bon?
C'était mon mari.
Il est mignon, hein, pourtant, notre Stéphane Clerget aussi, hein, Sandrine.
Oui, j'en doute pas, mais le mien est beau. Et donc, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me souviens de l'endroit, l'heure exacte. C'était un 5 décembre 1988 à 18h précise devant le lycée.
Donc, vous voyez, suis sûre que c'est bien une réponse de femme. Je me doute.
Alors ne croyez pas ça, Stéphane dit la même chose, il sait exactement
parce que vous lui avez répété tous les jours.
Pas du tout, mais tous les ans,
vous avez l'air
de s'en souvenir.
Non, là je ne suis pas en train de le défendre ou le défendre, c'est vraiment vrai, quoi. Il s'en souvient comme si c'était hier, ça nous a marqué tous les deux, donc. Voilà, donc ça fait 25 ans que ça dure, on a une grande fille de 22 ans, donc voilà quoi. Donc le premier baiser, c'est pas mon premier flirt, mais c'est le premier homme vraiment où j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et qui vous a bien embrassé visiblement.
Oui, et puis il embrasse toujours aussi bien.
Voilà, ça c'est encore une fois, je le répète, important, hein, si vous vous embrassez toujours, c'est que votre couple va bien.
Mais c'était à brûle-pourpoint ou alors vous étiez donné rendez-vous pour le baiser? Comment ça s'est organisé ce premier baiser?
C'était mon pion. Et voilà,
pion.
Mon pion
pas
à l'école,
pion,
au lycée. Et puis moi,
donc il est un peu plus âgé que vous, alors?
2 ans de plus.
Ah oui, non, c'est
ça. 2 ans de plus, ouais, c'était pas.
Et vous aviez flashé sur votre pion depuis déjà pas mal de temps?
C'est lui qui avait flashé sur moi. Il m'écoute là, il va pas être content.
Il avait flashé sur vous, ça se fait pas. Ouais. Oui.
Et vous voyez, j'allais partir et il m'a dit, mais tu m'embrasses pas. Donc j'ai tendu les joues, il m'a dit, non, pas comme ça. J'ai l'impression que c'était hier, donc c'est marrant.
Waouh!
Pas comme ça, oui, d'accord. Et alors, vous lui avez tourné la bouche?
Forcément.
Oui. Et c'est pareil, vous avez ressenti quelque chose de fort?
Ouais,
et...
Complètement, oui. Ouais, les filles, on est quand même plus pudiques. Je parle de notre génération, hein, moi je suis de 70, on était plus pudiques. Donc aujourd'hui, maintenant, elles n'ont plus du tout les mêmes états d'esprit que nous, et tant mieux.
Vous savez, Sandrine, je ne sais pas, le premier rapport n'a pas tellement baissé chez les femmes non plus, il ne faut pas croire.
Mais c'est dommage, parce que moi je suis moi j'ai quand même éduqué ma fille comme ça, hein, c'est une femme. Mais avant tout, ce ne sera pas la femme de son mari, c'est une femme. Enfin, moi, je suis assez comme ça, hein, donc c'est dommage. Voilà,
qu'est-ce qui est dommage, Sandrine?
Pour moi, une femme et un homme, c'est la même chose. Il n'y a pas une supériorité. Et malheureusement, à notre époque, on ne nous élevait pas comme ça. On nous élevait la femme pour rester en dessous de son mari. Enfin, voilà quoi.
Non, mais je crois que, Sandrine, la femme et l'homme, ce n'est pas la même chose. En même temps, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de raison que la femme soit. Totalement soumise, c'est plus la même époque, mais sincèrement, je pense que dans la majorité des
on est plus fort.
De toute façon, on est le sexe fort, alors arrêtons de vouloir être défendu de partout. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a vraiment toutes les possibilités. Donc il faut juste aider les femmes à oser être la femme qu'elles ont envie d'être.
Ouais, on vit dans une belle époque aujourd'hui. Moi, je trouve, hein, on a beaucoup de chance.
Et encore une fois, je voudrais rappeler que les hommes, dans la majorité, respectent la femme, aiment la femme et ne sont pas des vilains machos prêts à profiter de
non,
tout.
Non. J'en suis la preuve aujourd'hui. Je peux dire que mon mari, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je parle comme ça aussi, hein, forcément.
Alors bien sûr, il y a des hommes violents, faut pas le nier. Mais vous savez, il y a aussi des femmes qui sont de véritables pestes. Hein,
Oui, je sais aussi. Ouais.
Stéphane, vous voulez réagir, non?
Non, je voudrais revenir effectivement sur le premier baiser. C'était pas votre tout premier baiser, c'était le premier baiser avec votre mari, c'est ça?
Non, j'avais 18 ans, donc d'accord. Forcément, si vous voulez, mon premier amour, c'est mon mari, pour tout sexuellement et tout. Donc pour moi, ça ne comptait pas, c'était des fleurs, mais c'était pas important, quoi.
Ouais. Voilà. Mais ça c'est aussi très féminin. Quand une femme rencontre vraiment un homme qui est important pour elle, ça efface les autres.
Oui,
ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai que là, dans les témoignages qu'on avait, les premiers baisers des femmes, elles disaient le premier baiser avec mon mari. Et alors que les hommes ont plus tendance à raconter leur premier baiser.
Leur première expérience.
Oui, leur première expérience. Oui.
Comme quoi finalement, hein, vous voyez bien que c'est pas pareil un homme et une femme.
Oui, c'est vrai aussi. À ce niveau-là, oui, je vous rejoins.
Mais oui, mais tant mieux. C'est ce qui fait qu'on s'attire. Le jour où on sera exactement pareil, à mon avis, on va perdre beaucoup sur le plan, en tout cas, de la sexualité. Restons différents. Merci, Sandrine.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Céleste.
Je me permets aujourd'hui de vous appeler. J'écoute souvent votre émission car je pratique moi-même le bondage. Je pèse exactement le kinbaku. Ça ressemble au shibari, si vous voulez. C'est une pratique avec des cordes. J'y prends effectivement un grand plaisir exclusif avec mon partenaire, physique et mental, à l'expression d'une confiance. Mais je veux rappeler quand même aux auditeurs qu'on invite à essayer le bondage, que c'est une pratique qui peut être dangereuse quand elle est mal maîtrisée. Cela dit, je tiens quand même à rappeler que quand on utilise des cordes, il faut les placer à des endroits qui sont extrêmement précis, sous peine de risquer quand même de coincer notamment le nerf radial et d'aboutir à des paralysies qui peuvent être ponctuelles ou définitives. Alors, je veux effrayer personne, mais il existe des gens aujourd'hui, des écoles, l'école des cordes à Paris, etc., par exemple, qui apprennent ces méthodes, qui apprennent les techniques de sécurité et qui permettent la pratique de cet échange en toute sécurité.
C'est bien, vous avez raison, et on ne le dira jamais assez. Il y a vraiment les endroits stratégiques où on peut mettre des cordes et des endroits où il est interdit. Par exemple, on ne met pas des cordes autour du cou. Ça paraît évident, mais c'est quand même bien de le rappeler.
Oui, mais c'est important.
Même au niveau des bras, si vous qu'il y a des points de pression qui peuvent passer à certains endroits du nerf radial. Et donc, on ne pense pas forcément, mais ça peut effectivement provoquer une paralysie. Par ailleurs, il faut rappeler aussi à tous les gens qui font joujou avec des cordes qu'il faut le faire avec des ciseaux de sécurité sous la main. Parce que effectivement, on peut avoir à un moment donné soit des paniques, soit des inconforts, des douleurs, etc.
Rappelons-le, les fameux ciseaux de sécurité.
Voilà, exactement. Je crois qu'il est quand même important. Donc, pour tous les gens qui ont envie de pratiquer cela, effectivement, c'est fantastique, c'est magnifique, mais il y a des écoles aujourd'hui, il y a des gens qui vous apprennent à pratiquer cet art en toute sécurité, et je crois que c'est important de le dire, c'est un art qui s'ouvre, n'hésitons pas, moi j'aime beaucoup ça, mais il faut savoir
qu'est-ce qui fait que vous aimez beaucoup ça, Céleste, avec vos mots, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
Tout simplement, en fait, quand moi je suis attachée par mon partenaire, je m'offre littéralement à lui. Bien sûr, c'est un homme très respectueux, mais je lui offre une confiance absolue, un lâcher prise total.
C'est ce sens de l'abandon total. Hein. Ça revient.
Tout à fait, oui.
Confiance, l'abandon.
Oui, exactement, une relation de confiance et une forme de fusion qui n'est pas que physique mais qui est également mentale, parce qu'il n'y a pas forcément de pénétration sexuelle quand on pratique ce genre d'activité. Ça peut être juste l'attachement en soi, et effectivement c'est un moment de fusion pas que du corps mais aussi de l'âme.
Oui, oui. Je crois que c'est ce que peut-être le plus compliqué à comprendre pour ceux qui nous écoutent, parce que finalement on a l'impression que tout passe par le corps, mais en effet il y a quelque chose de l'ordre du psychisme qui est très fort dans ça, et c'est en ça qu'on le rapproche un peu du sadomasochisme.
Oui, bah souvent c'est les pratiques peuvent être mêlées, ça dépend de chacun, mais bon, et puis également ça vous l'avez dit, mais il faut se souvenir quand même pour les femmes qui vont avoir des partenaires qu'elles connaissent moins, qu'une fois qu'on est attaché c'est lui qui décide quand il vous détache, et donc à ne pas pratiquer avec des gens qu'on ne connaît pas parce que malheureusement ça pourrait tourner au vinaigre pour les pauvres personnes qui sont attachées. Il y a des gens qui se révèlent à ce moment-là. Donc attendez de bien connaître un partenaire pour le laisser vous attacher, parce que à ce moment-là, vous lui offrez votre confiance, votre corps et votre âme. Donc
absolument. Et oui, pardon.
Non, excusez-moi, je trouve que vous dites quelque chose de très juste que je voulais signer. Il y a des gens qui se révèlent à ce moment-là, et ça, c'est très juste, parce qu'il y a même des gens qu'on peut connaître et qui, sous le fait que l'on soit attaché, ont leur instinct qui se réveille, enfin leur instinct, enfin voilà, et tout d'un coup, effectivement, on découvre quelqu'un d'autre. Donc,
oui,
encore une fois,
peur, hein.
Ah, mais bien sûr, encore une fois, prudence, c'est tout sauf anodin, et vraiment, merci de votre témoignage, parce que c'était vraiment très important que l'on entende bien tout ça.
Eh bien, merci de m'avoir laissé la parole, et je vous souhaite une très bonne continuation.
Et je pense, on peut peut-être ajouter, Céleste, pour certains couples qui auraient envie comme ça d'essayer, mais qui sont totalement novices, à ce moment-là, peut-être que c'est pas mal de commencer avec un couple qui va les initier, ça peut aussi commencer comme ça. Hein.
Tout à fait, et je rappelle que ce couple, il va pas forcément vous mettre tout nu et vous demander d'avoir un rapport sexuel. Uniquement les cordes, et d'ailleurs dans les pratiques d'école des cordes, je vous rassure, les gens sont habillés, les femmes sont en leggings, en t-shirt. On n'est pas dans une ambiance sexuelle. L'ambiance sexuelle, elle va naître ensuite entre deux partenaires s'ils le souhaitent. Mais quand on va en cours, c'est un cours, donc ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie et dans le rappel de cette sécurité qui est somme toute essentielle si on veut pouvoir avoir un plaisir incommensurable.
Absolument. Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Céleste, parce que je crois que vous avez dit des choses essentielles. Voilà. Et encore une fois, rappelons-le, on ne conseille pas du tout à ceux qui nous écoutent de pratiquer le bondage. Merci beaucoup, Céleste. Merci à vous. On se quitte pour aujourd'hui, mais dès demain, bien sûr, on se retrouve pour la suite des meilleurs moments de l'amour et vous sur RMC. Et je vous embrasse tous bien fort.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.